tu l'as vu ?
Quoi ?
Eh, tu l'as vu ?
Mais quoi ?
Bah l'actu.
T'as vu l'actu ? Tous les samedis de 17h à 18h dans la tribu. La jeune et moins jeune rédaction décortique l'actualité locale, nationale et internationale.
Le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.
À Nanterre, un mot d'ordre a été lancé. Occupez le quartier latin.
Réalisation d'interviews, accueil d'invités, correspondants étrangers, direct.
La tribu, l'information autrement.
Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission de T'as vu l'actu. Et pour nous accompagner, du coup, nous avons Marius. Bonjour, bonsoir Marius.
Bonjour, bonsoir.
Bonjour, bonsoir Ilan.
Bonjour, bonsoir.
Bonjour, bonsoir Romain.
Bonjour, bonsoir.
Bonjour, bonsoir Sacha.
Bonjour, bonsoir.
Bonjour, bonsoir Corentin.
Bonjour, bonsoir.
J'hésitais à dire... Non, parce que Corentin, il me pose un lapin, alors je suis pas contente. Du coup... Bah, me regarde pas comme ça, Corentin. Il faut que le monde entier le sache, Corentin.
Non, mais t'es pas obligé.
Bah, si, si, si. Du coup, nous allons parler, comme chaque semaine à peu près, du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Nous allons parler également, en fait, on va parler pas mal de télé, en fait. On va parler de Valérie Pécresse. Avec Marius.
Tout à fait.
On va parler de l'appli SNCF avec Corentin.
Oui.
Et nous allons parler également de La fin de plus belle la vie avec toi, Ilan.
C'est ça.
Et puis de Koh-Lanta avec Sacha.
Oui, c'est ça.
Ça vous va comme programme ?
Oui.
Eh ben, ça tombe
trop bien.
Bien.
De toute façon, on n'a pas le choix.
C'est ça. Alors que.
Et Romain, tu fais. Ah non, il fait pas.
Si, il fait le premier sujet.
Toujours la guerre.
Voilà.
Enfin, le potentiel guerre. On
et
saura
en
jamais.
Fait, on ouais. a des. Plusieurs choix. En général, comme on est une radio locale, on commence plutôt par les sujets locaux, ensuite les sujets nationaux, ensuite les sujets internationaux. C'est l'échelle de la géographie. Du coup, du plus près au plus loin. Mais là, il y a aussi une autre échelle, c'est l'échelle de l'instantané, ce qui vient juste d'arriver. Et là, il y a un truc qui est tombé il n'y a pas longtemps. En même temps, c'est à peu près tous les 2-3 jours que ça tombe, ce genre d'information, en ce moment. Et donc, du coup, on va laisser la priorité au plus proche, donc c'est Romain avec le conflit. Enfin non, il n'y a pas encore de conflit pour l'instant. En tout cas, les tensions en Ukraine.
Oui. Est-ce que je commence par ce qui s'est passé depuis la semaine dernière ou je dis ce qui vient de se passer ?
À ton avis ?
Ce qui vient de se passer ?
Exactement.
D'accord.
Tu es à bonne école, Romain.
Eh bien, merci Adeline, heureusement que tu es là.
Mais non.
Du coup, c'est l'ambassadrice américaine de l'ONU qui déplore que ça fait une demi-heure qu'il y a de nouveau un risque d'invasion imminente de l'Ukraine par les troupes russes. Alors, on se souvient le week-end dernier qu'il y avait eu un regain des tensions entre notamment l'UE, les États-Unis et la Russie. Je pense, alors je suis pas sûr, mais c'est autour de 200 000 troupes qui sont amassées depuis la Biélorussie, la Russie, la mer Noire et la Crimée qui étaient annexées. Et il y avait eu une détection de sous-marins nucléaires russes qui étaient passés au détroit de Bosphore et une vingtaine d'hélicoptères qui ont survolé les contours de l'Ukraine. Et donc du coup, il y a eu des réunions des ambassadeurs de l'OTAN pour faire le point sur la situation. Des demandes de la part de plusieurs dirigeants occidentaux de retirer leurs diplomates, leurs citoyens et leurs ressortissants vers leur pays respectif.
C'est pas facile à dire.
Non, dis donc. Des entretiens téléphoniques, comme il y en a eu énormément ce week-end. Et également des transferts des ambassades des États-Unis, du Canada et de l'Australie qui étaient situées à Kiev, la capitale ukrainienne, vers Lviv, dans l'ouest du pays, au cas où, on ne sait jamais. Et une nouvelle rencontre diplomatique, c'était pas Macron et Poutine cette fois, c'était le chancelier allemand, Olaf Scholz, avec déjà Zelensky le 14 février et Poutine le lendemain pour discuter de ce risque d'invasion. Donc on pensait qu'il y avait avoir moins de tensions, presque un début de désescalade. Déjà Poutine qui avait dit on va peut-être amorcer une désescalade face à ça sous certaines conditions, notamment la demande de, alors je sais plus c'est qui, c'est des députés russes qui avaient demandé à Poutine de reconnaître les états indépendantistes d'Ukraine. je sais plus. Mais en gros, de revendiquer le fait qu'ils veulent se détacher de l'Ukraine pour devenir indépendants et peut-être, dans une certaine éventualité, de se rattacher à la Russie. Donc, en gros, que l'Ukraine cède ses territoires à la Russie. Donc, c'est pas ouf ouf. Il y a eu une contradiction entre ce que disait Poutine sur une désescalade et le 15 février où il y a eu des cyberattaques au site du ministère de la Défense ukrainienne et de deux banques d'État importantes. Même si la Russie dément sa culpabilité face à ces cyberattaques, il y a quand même une potentielle chance qu'il soit suspicieux. Donc bon, voilà. Il y avait aussi le 16 février où le gouvernement ukrainien avait cru entendre qu'il y aurait une potentielle attaque russe, même s'il n'en est rien. Mais au final, on ne sait pas trop s'il y a une désescalade ou s'il y a eu au contraire une continuité de l'amassement des troupes aux frontières ukrainiennes.
Est-ce que tu m'autorises un jeu de mots assez pourri ?
Fais-toi plaisir.
C'est les montagnes russes. Vous connaissez cette expression ?
Oui.
Oui. Bah, c'est un peu le cas de le dire, remarque. Hein. Bah, c'est pas si pourri que ça pour une fois.
Merci. Je suis assez fière d'un jeu de mots aussi.
C'est un peu les montagnes russes en ce moment.
Oui.
Donc, incertitude et pour l'instant. Peut-être un.
Bravo ! Oui !
Peut-être un retour à qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ?
Juste l'information, la première, comme quoi l'inquiétude d'une invasion, d'un.
Oui, bah le risque d'invasion.
Elle vient d'où cette information ? Qui a dit ça ?
C'est l'ambassadrice américaine à l'ONU qui a déploré ça.
Donc,
c'est toujours américain.
Oui. Voilà, exactement. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Après, je dis pas que ce soit une fausse information. Mais on sait très bien que dans un conflit comme celui-là, la diplomatie, elle est importante. L'information, elle est importante. Et que c'est aussi un jeu de nerfs, un petit peu, un jeu de. Donc, on donne une information pour faire réagir aussi, du coup, le camp adverse. Marius.
C'est drôle parce que. Enfin, je sais pas si c'est très drôle. Mais enfin, ça pourrait être pris comme drôle parce que, à l'ouest, les États-Unis sont complètement. Opposé à la Russie qui est complètement à l'est, et au centre il y a les Européens qui jouent la diplomatie, qui sont disons un peu qui sont entre les deux, on pourrait dire, puisque tantôt ils essayent de parler aux Russes, tantôt ils rencontrent les Américains, et on sait que l'Europe est un partenaire important des États-Unis. Du coup ça concorde géographiquement, puisque au centre il y a l'Europe qui, selon les régions, soutient plutôt la Russie ou les États-Unis, et sur les deux côtés, à l'est et à l'ouest, ils sont complètement opposés.
Enfin, ça, c'est un peu caricatural, oui. Quand même, parce que c'est pas si limpide.
Ça dépend des régions d'Europe aussi, mais.
Ouais. Et juste, Romain, pourquoi est-ce que t'as choisi ce sujet ? J'ai pas eu le temps de te demander cette question.
Eh bien, parce que je suis comme la semaine dernière et comme il y a deux semaines intéressé par le sujet, et j'essaie d'être le plus proche des dernières nouvelles pour savoir à quoi s'attendre.
Est-ce que, comme Marius, tu es d'accord avec cette analyse ?
Par rapport à la géographie ?
Oui.
Bah oui, c'est un peu ça quand même. Après, il y a beaucoup de rapports avec l'histoire, parce qu'au final, on se rend compte, même s'il y a eu des changements de nom, que c'est un peu les mêmes acteurs dans le conflit. Mais oui, il y a ça. Et c'est vrai que en fonction de ça, on peut aussi se rendre compte des réactions différentes, que ce soit plus modéré en Europe, parce que peut-être qu'ils sont plus proches,
ils sont
plus proches de la Russie, ils prennent plus de pincettes dans les réactions, alors que les États-Unis, par historique aussi, ils n'hésitent pas à dénoncer directement la Russie d'invasion systématique. Et peut-être qu'il y a ça aussi. Peut-être qu'aussi, j'avais vu ça dans un article, je sais plus lequel, ça pouvait être une stratégie de Biden. Alors, c'était pas au moment du week-end où il y a eu des risques d'invasion, hein. Mais que Biden dramatise un petit peu sur la situation de risque d'invasion en Ukraine, pour se dire justement que ça peut être plus impressionnant de se dire qu'on a arrêté un risque de guerre que d'arrêter un simple conflit.
Mm-hmm. Ilan, je te voyais pas forcément être d'accord avec ce qui était dit.
Bah, c'est qu'on pourrait se poser la question si c'est aussi un intérêt des Européens de calmer le jeu et de ne pas avoir de conflit entre l'Ukraine et la Russie, aussi par intérêt. Est-ce que les Européens n'auraient pas intérêt à ce qu'il n'y ait pas de conflit et que tout se passe bien?
Européens sont en danger beaucoup plus que les États-Unis. Bah, géographiquement, du coup.
C'est ça, mais la base du conflit est sur l'entrée ou non de l'Ukraine dans l'OTAN. Et on sait que les Français et d'autres pays européens sont dans l'OTAN. Les Américains aussi. Donc c'est la question que je voulais vous poser, c'était est-ce que les pays européens, ou en tout cas les pays concernés par l'OTAN, n'auraient pas intérêt à calmer le jeu avec la Russie et donc l'Ukraine pour ne pas avoir de soucis et ne pas avoir besoin d'aller se déplacer en Ukraine et rentrer peut-être au pire des cas dans une troisième guerre mondiale.
Romain ?
Après, je pense, oui, il y a certainement ça, parce que c'est le truc à éviter au maximum. En plus, justement, géographiquement, on est beaucoup plus concerné que ceux qui se trouvent de l'autre côté de l'Atlantique. Mais oui, c'est sûr que il y a beaucoup. C'est pour ça que d'ailleurs il y a beaucoup de dirigeants européens qui se voient entre eux et qui cherchent à avoir contact avec le dirigeant ukrainien ou même russe. Et puis même il y a des enjeux économiques. On est vachement dépendant du gaz russe aussi et d'autres richesses. Je sais pas si c'est ça.
Corentin ?
Oui, mais...
Ah oui, oui.
Non, mais...
Ah bah si. On va pas faire une heure d'émission comme ça, Corentin, tu t'en rends compte ?
Non.
Évidemment.
Non.
Mais peut-être ?
Non, ce serait horrible.
Mais non.
Voilà. Les Européens, ils ont que... Comment dire ? Comme vous l'avez dit, les Européens, ils n'ont aucun intérêt à avoir une guerre à leurs portes. Parce que les deux... c'est les portes de l'Europe. Parce que l'Ukraine, ça touche l'Union Européenne. Et même, par exemple, il y a aussi des forces en Biélorussie qui touchent la Pologne. Il y en a aussi en Moldavie qui est entre l'Ukraine et, je crois, à peu près la Bulgarie, Roumanie. Et la Moldavie veut aussi rejoindre l'Union Européenne. Mais après... je pense que les conflits, il sera peut-être plus comme la Crimée. On va peut-être les laisser faire et juste faire semblant de contenir. Même si, entre temps, par rapport à la Crimée, ça a un peu changé, notamment parce que la Russie, elle a perdu son seul porte-avions. Elle a plus de porte-avions. Ça peut paraître bizarre pour un pays comme ça de pas avoir porte-avions. Et l'Ukraine, en 2014, elle avait son armée, c'était ridicule. Elle avait à peine 60 avions de chasse et elle avait presque plus de marine. Entre temps, elle s'est quand même pas mal réarmée et toutes les armes qu'elle a, elles sont au standard OTAN. Donc ce serait peut-être un conflit moins asymétrique qu'on peut le penser.
C'est-à-dire ?
Quand sur le papier, l'Ukraine et la Russie, c'est clairement la Russie qui gagne. Or, il y a énormément d'Ukrainiens qui veulent aussi eux-mêmes se défendre, même s'ils sont pas militaires. Je crois qu'il y a plus de 100 000 personnes qui ont rejoint les sortes de milices un peu à moitié autonomes, à moitié officielles. Il y a même, par rapport à 2014, il y a aussi énormément de femmes qui veulent protéger leur pays. Et ce que 110 000 Russes autour de l'Ukraine. Et donc, c'est à peu près le même nombre d'hommes et même plus en Ukraine si on compte la milice. Les armes, c'est aussi la Crimée a été envahie en quelques jours parce que la Russie était beaucoup plus forte sur le plan aérien parce que déjà l'Ukraine n'avait plus son aviation était tellement ridicule qu'elle pouvait rien faire. Or, entre-temps, elle a acheté énormément de drones et dispositifs anti-aériens, beaucoup de dispositifs anti-chars en Syrie, ça a fait un désastre pour la Russie. Et la Russie, justement, et son armée, elle n'a pas eu la même mise à niveau que l'Ukraine.
Sacha.
Mais après, moi, je pense que... je pense que l'Ukraine je pense que la Russie et l'Ukraine, enfin, ils ont, enfin, je comprends pas pourquoi la Russie et l'Ukraine sont en conflit.
Alors, Marius.
Parce que avant il y avait l'URSS, donc et l'URSS, la Russie avait son empire, donc c'était l'Union soviétique, et l'Ukraine en faisait partie.
L'empire.
Ouais, enfin, oui. C'était quand même une sorte d'empire.
Oui. Une union. Soviétique.
Ouais, une union.
Avec des satellites d'autres pays qu'on appelait les satellites.
Et c'était, donc l'Ukraine était une république, comme beaucoup de pays qui aujourd'hui sont devenus états indépendants.
La république.
Non, ils n'étaient pas. Maintenant.
Non, ils n'étaient pas. Ils sont.
Oui, enfin, ils sont devenus.
Oui.
Mais enfin. Et donc, la Russie voudrait, parce que l'Ukraine veut absolument retourner dans l'OTAN et dans l'Union européenne aussi. Rejoigne l'OTAN. Et l'Union européenne, qui sont plutôt des unions occidentales. Or, la Russie, elle est opposée à l'Occident, et enfin aux Occidentaux. Et la Russie ne veut pas que un de ses anciens pays satellites rejoigne le camp des Occidentaux.
Alors, opposée, on peut dire que du coup, elle ne veut pas qu'il y ait une influence trop américaine sur le territoire européen. L'OTAN, c'est 5 pays. 6 pays.
C'est beaucoup plus.
C'est le départ, ils étaient 5. Au départ, ils étaient 5.
Moi, je suis restée bloquée. Hein.
Bah, t'as déjà les États-Unis, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne, le Portugal, l'Italie.
Il y a aussi la Turquie, non?
Oui, je crois qu'il y a aussi la Turquie, la Grèce, la Roumanie, la Bulgarie. Je crois une bonne partie de l'Union européenne, en tout cas.
Ouais. Et donc, en fait, c'est pour ça que la Russie veut pas, parce qu'elle voit arriver les États-Unis à ses portes, finalement.
Oui.
Parce que l'OTAN a été créée sous l'impulsion américaine. Romain.
Ouais, bah, il y a ça. Et puis, j'avais dit ça la dernière fois. Mais.
Attends, juste 2 secondes. Excuse-moi, Romain.
Oui,
Dan, juste pour préciser, du coup, les membres de l'OTAN.
Il y a aujourd'hui, à l'heure actuelle, 29 pays faisant partie de l'OTAN. Voilà.
Et donc, il y a qui?
Alors, les 29 pays, l'Albanie, l'Allemagne, la Belgique, la Bulgarie, le Canada, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, les États-Unis, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Islande, l'Italie, l'Estonie, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, du Nord, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, etc.
Luxembourg.
D'accord. Okay. Ouais. On ne saura pas pour la Turquie, du coup.
Ah, si, la Turquie.
Tu l'as dit ? Je n'ai pas entendu.
De toute façon, c'est sur la carte.
Si.
Ok. Merci, Ilan. Romain.
Et oui, en fait, c'est les conflits, ils avaient été accélérés parce que je sais pas depuis quand.
De quoi tu parles ? De quel conflit ?
Le conflit entre l'Ukraine et la Russie seulement. Je sais pas si depuis combien de temps l'Ukraine veut faire partie de l'OTAN, mais je pense ce qui a accéléré le conflit, c'est le fait qu'ils veuillent déjà s'intégrer à l'UE, parce que c'est ça qui a séparé l'Ukraine en deux camps, quoi. Le fait qu'il y a un dirigeant à la base pro-européen qui a divisé l'Ukraine en deux, puis après un dirigeant pro-russe qui a fait en sorte d'avoir des accords pro-russes pour pouvoir se rapprocher de ce pays-là au détriment de ceux qui voulaient se rapprocher de l'Union européenne. Ça a entraîné une révolution qui a renversé le gouvernement pro-russe. Il y a eu des états indépendantistes pendant ce temps-là. Pendant qu'ils étaient à Kiev en train de manifester pour se rapprocher de l'UE, il y a la Russie qui a fait un pseudo-référendum en Crimée pour savoir qui voulait rester en Ukraine et potentiellement en UE.
En 2014, elle a juste envahi la Crimée, quand même.
Oui, par le biais d'un pseudo-référendum. Enfin, un référendum par la Russie.
Non, ils ont envahi la Crimée.
Oui, mais c'est à l'issue de ce référendum qu'ils ont annexé la Crimée. Et justement, il y a eu beaucoup de conflits entre l'UE, accessoirement l'OTAN, et la Russie depuis ce moment-là. Et le fait qu'ils veulent rejoindre l'OTAN, c'est une humiliation pour la Russie, limite. Donc il y a cette perte de souveraineté, et c'est pour ça qu'ils mettent beaucoup la pression, à savoir est-ce qu'ils veulent rejoindre l'ennemi, ou est-ce qu'ils veulent rester fidèles à l'histoire russe.
À l'URSS.
Corentin.
Oui, et même la division, elle est même encore plus naturelle, vu que ça peut paraître bizarre en France, mais il y a vraiment deux langues maternelles qui se cohabitent entre je sais pas, c'est, on va dire les russophones plutôt à l'est, comme on pouvait les retrouver en Crimée ou actuellement dans le Donbass, puis ceux qui, je crois l'ukrainiens, ben dans le reste de l'Ukraine. Et je crois, et d'une certaine façon, c'est ce que Poutine il veut faire, c'est récupérer toutes les régions russophones proches de chez lui. Et surtout que au fur et à mesure de son mandat, il a vu tous ses satellites, tous les anciennes républiques soviétiques petit à petit tomber
dans le giron.
Voilà. Et même, il y a quelques mois, il avait encore, on peut dire, Ukraine, Biélorussie, Moldavie. Bah, par exemple, la Moldavie, ils ont élu une présidente pro-Union européenne et ensuite ils ont élu un parlement, enfin, ils ont donné une énorme majorité de députés pro-européens. D'une certaine façon, la Moldavie, il est aussi en train de la perdre. Il va lui rester plus que la Biélorussie. Et pour combien de temps? En plus, pour beaucoup de personnes, il n'aime pas du tout Loukachenko.
Marius,
je sais pas.
Il va bientôt falloir qu'on clôt ce débat, sinon on n'aura pas le temps de faire tous les sujets.
Il existe, je crois que ça s'appelle comme ça, le Comité des Nations Indépendantes. Donc c'est ce qui reste de, enfin c'est un des vestiges de l'URSS pour réunir un maximum d'anciens pays satellites de soviétiques. Je sais pas si l'Ukraine en fait partie. C'était ma question. Est-ce que l'Ukraine fait partie du Comité des Nations Indépendantes? Ça je sais pas. Et est-ce que ça peut impacter?
Non, je rigole.
Est-ce que ça peut impacter cette
conflit? Surtout que l'Ukraine elle est une jeune démocratie et indépendante depuis 1991 et elle a tout intérêt à stabiliser au plus vite sa démocratie pour pas qu'elle soit de nouveau renversée. Et donc son intérêt de rentrer dans l'OTAN se fait là aussi, c'est dans la sécurité que peut apporter les pays, protéger ses
frontières complètement.
Ça, et stabiliser la démocratie.
C'est ça. Romain ?
Et puis en plus de ça, il y a la Russie de son côté qui cherche par une conquête presque territoriale, déjà une conquête d'influence. Quand on voit ce qui se passe par exemple au Kazakhstan ou même dans les pays d'Afrique de l'Ouest avec tous les coups d'État, tout ça, entre l'Occident, les pays occidentaux qui sont limite virés à cause des coups d'État militaires et on commence à voir des mercenaires russes
de Wagner.
Ouais, tout ça là. On se dit que il y a là aussi avant il y avait beaucoup d'influence russe notamment en Afrique. Et on constate qu'ils cherchent toujours à subsister. Et même en Afghanistan, quand les États-Unis sont partis, on avait on avait un accord. En gros, la Russie ou la Chine, je sais plus, donnait son accord aux talibans pour reprendre le pouvoir.
Donc l'Ukraine fait bien partie de la communauté des États indépendants. Et la communauté des États indépendants a été créée par la Russie en 1991. Voilà, par Boris Eltsine.
Oui.
Le président en 1991 de la Russie. Voilà. Ilan.
C'était oui. Si on pouvait juste faire une dernière chose sur l'information que tu avais donnée au départ, donc qui est encore américaine. La question aussi qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que l'Ukraine n'est pas en réalité que le dindon de la farce, c'est que c'est encore une manière de s'opposer entre la Russie et les Américains, comme il a pu se faire depuis des années avec la guerre froide, des choses comme ça. Est-ce que ce n'est pas encore un moyen supplémentaire d'être en opposition sans même se rentrer frontalement dedans?
C'est vrai que ça me fait un peu penser à l'Allemagne qui a été séparée en deux, en fait, avec deux zones d'influence.
Mm-hmm. Et en même temps, est-ce que c'est pas dépassé un peu comme opposition?
C'est ça.
Parce que finalement...
Pas chez les Américains.
Non, mais laissez-moi finir. Finalement, qui sont les premières puissances mondiales aujourd'hui? Est-ce que c'est réellement les États-Unis et la Russie?
Non.
On est bien d'accord.
D'ailleurs, c'est étonnant que la Chine n'ait pas son mot à dire.
Bah voilà. Est-ce que c'est pas un moyen d'exister mondialement, en fait?
Parce qu'on n'entend pas parler de la Chine,
oui.
En fait.
Et puis, comme disent certains, le meilleur moyen de faire nation, c'est d'aller croiser le fer ailleurs.
C'est
et qu'aux États-Unis, ça se passe pas si bien.
Et ce sera le mot de la fin de ce sujet. Et pourquoi on n'entend rien? Eh bien, parce que tout simplement.
What are you doing?
Just being away.
Really?
Just being away.
Oh, really?
Nuff said go move your roof and bed. Nuff said go move your roof and bed. Well now that you wake, can we have your attention? No give without take. So take my mention with love. Brings us to the third dimension. Hashtag Trinity. Hashtag Newspeak. Hashtag Deepfake. Hashtag Versace shit. Different day. Now what did we say? That you are awake. Creating questions that don't exist. Intellectualizing shit. The nature just is. We're taking the piss. Hashtag questions don't exist.
woke. So you were sleeping cause woke. So you were sleeping cause who gives a fuck that you woke up woke. So you were sleeping cause woke. So you were sleeping cause woke. So you were sleeping cause who gives a fuck that you woke up.
So you woke, that's a joke with a capital J. I'm just playing, no offense, but you know what they say. So you woke, where you been? You awake from your sleep. You won't believe when I say you didn't miss a thing. So you woke, throwing a tantrum, throwing your toys. You got the question for a question, you just making noise. So you woke, guess what? The shift will never change. Revolution only brings you back to the same place. So if you wake up, information's free, but information's blurry.
Oh, mommy, I hope I didn't wake you.
Woke, so you were sleeping cause woke. So you were sleeping cause who gives a fuck that you woke up? Woke, so you were sleeping cause woke. So you were sleeping cause woke. So you were sleeping cause who gives a fuck that you woke up?
Being away.
Oh, really?
The government is naughty, the government is bad, the government will have your dad. The government is boring, they don't know what to do, so the government is watching you. The government is old and the government is slow. If that is not the case, then they will let you go, but they don't. If they do, then they can't get you. The government is me, the government is you. The government is it in a game of tag. Tap you on your back and you're never getting back. Food check, the government and the big fat cats pay. Taxable to we like that. Please don't hit the times. The government must die. We might adhere forever till the end of time.
Woke, so you were sleeping cause woke. So you were sleeping cause who gives a fuck that you woke up? Woke, so you were sleeping cause woke. So you were sleeping cause woke. So you were sleeping cause who gives a fuck that you woke up?
We said do what we said. Fuck that. We said say what we said.
Say la fête, we're woke.
What we said, what we said,
bet we're woke. When we
do what we said,
what's up, you speak, cause you're
woke.
With the world, we're woke. When
we do what
we said, face our bills, we're woke.
When say what
kids fall ill, we're woke. When the kids reflect, become their own architect. Walk the earth with respect for themselves, dust the next.
What is it you do not understand?
T'as vu l'actu? La suite?
Et la suite de T'as vu l'actu, j'ai réveillé Corentin ici. Oh, j'ai crié? Non, d'accord. C'est en compagnie de Marius.
Oui, alors je vais parler d'un meeting. En effet, la candidate du parti Les Républicains, Valérie Pécresse, a effectué son premier meeting en vue des élections présidentielles 2022. Un meeting au Zénith le 13 février pour relancer sa campagne devant 7000 personnes. Ce meeting était présenté comme un moment inoubliable pour le parti Les Républicains. Or, dans un contexte électoral où tous les sondages désignent Emmanuel Macron comme grand gagnant et Valérie Pécresse, Marine Le Pen, donc candidat du RN, ainsi que Éric Zemmour du parti Reconquête, sont dans un mouchoir de poche. Pour rappel, j'ai pris un sondage IFOP, le premier que j'ai trouvé, enfin le dernier qui est sorti. Donc Marine Le Pen aurait 16,5% des intentions de voix. Je dis aurait parce que c'est un sondage, donc ça doit toujours être pris avec des pincettes. Éric Zemmour, 15,5% des intentions de voix, et Valérie Pécresse, 15%. Donc ils sont dans un mouchoir de poche. Avant que Valérie Pécresse ne s'adresse à la foule en délire, Michel Barnier, Éric Ciotti et Xavier Bertrand ont pris la parole. Eux qui s'étaient présentés à la primaire du congrès LR se sont adressés au public pour soutenir la candidate LR. Tous trois sont respectivement commissaires européens, députés français Éric Ciotti, député français, mais j'ai oublié dans quel coin du sud de la France.
C'est pas grave, on va chercher.
Et
je sais pas.
Et Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France.
Ah oui.
Mes chers compatriotes de métropole, des Outre-mer et de l'étranger, enfin nous voici tous réunis. Vous m'avez manqué. Merci à chacune et chacun d'entre vous de me donner votre énergie. Vous êtes toujours là. Votre affection me porte. C'est un privilège d'être votre candidat, de porter vos couleurs, même si, désormais, c'est au peuple de France que je dois me donner.
Lors de son discours, Valérie Pécresse a assuré vouloir être la présidente de la paix. Elle a remercié aussi les familles des soldats français et veut lutter contre l'islamisme au Sahel, donc région africaine pour ceux qui ne le sauraient pas. Elle a évoqué les taxes sur les successions et veut les faire disparaître. Elle veut également utiliser davantage les énergies nucléaires pour, selon elle, l'environnement. A dénoncé la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim par le gouvernement Macron. Voici quelques-unes des propositions et des envies politiques de la candidate LR. Après, j'ai pas tout mis parce que sinon ce serait trop. Seulement, après son meeting, Valérie Pécresse a reçu des avis défavorables sur sa prestation, sur le fond et la forme, sans parler des militants LR qui sont partis du zénith au début du discours. Le résultat global du meeting, vu au départ comme un baptême du feu, s'avère être une défaite. Par la suite, l'équipe de la campagne LR a trouvé la performance, a déclaré que la performance de Valérie Pécresse était réussie, amplement réussie. Elle a noté par la suite que Valérie Pécresse a déclaré qu'elle était, qu'elle savait mieux parler aux Français que faire des grands discours pour se défendre et pour se justifier de ces avis défavorables qui parlaient à la suite.
Éric Ciotti, c'est le député des Alpes-Maritimes.
D'accord.
Mais pas d'une région.
Oui.
Voilà.
D'accord.
Pourquoi avoir choisi ce sujet, Marius ?
Parce que j'ai vu le début du discours et aussi parce que c'était dans l'actualité française et que je m'intéresse aux élections présidentielles et parmi toutes les informations qu'on peut avoir des élections présidentielles, c'était celle qui revenait le plus et l'une des plus importantes. Et puis le meeting
de cette semaine,
le meeting qui se présentait pour la candidate, enfin pour Valérie Pécresse, il était quand même très important. Avant qu'il commence, tout le monde lui mettait la pression dans l'équipe de campagne. Enfin, c'était un moment très important puisque c'était son premier meeting, pas de sa carrière, mais de en tant que candidate à la présidence. Et donc globalement, si on en croit tout ce qu'on lit sur les articles, sur les avis extérieurs, ça s'est mal passé. C'était une mauvaise performance. Après, tout dépend des avis aussi, mais voilà.
Corentin.
C'était nul, voilà. Non mais c'est vrai, c'était gênant, les blancs. Enfin, quand elle finissait sa phrase et qu'elle attendait qu'on l'applaudisse, puis même ça faisait très surjoué, puis elle changeait tout le temps d'intonation, c'était horrible.
Après, c'est dans sa voix. Hein.
Romain ?
Oui.
Non mais c'est tout, c'est dans sa voix, il a une voix très particulière. Après, on peut pas juger par le physique.
Ilan ?
J'ai pas spécialement d'avis. C'est vrai qu'elle a été critiquée, mais après c'est partie du jeu. Quand tu te présentes à une élection présidentielle, il y a forcément des gens avec toi, des gens contre toi, et la plupart du temps on retient
que les mauvaises critiques. Sacha,
c'est vrai que je suis un peu d'accord avec Ilan. Enfin moi j'ai pas bien aimé son discours, mais j'ai pas trouvé ça nul non plus, donc en fait souvent dans les présidentielles, ils retiennent le pire, mais voilà.
Romain ?
Moi, je vais pas mentir, hein, j'ai pas écouté son discours, j'ai vu des extraits à la télévision, et par contre, j'ai vu des articles qui étaient assez critiques sur un terme qu'elle avait employé en parlant de grand remplacement.
Je voulais en parler, mais j'ai oublié. Donc...
Alors, si c'est bien ce que j'ai compris, ça avait des rapprochements avec des idées d'extrême droite, mais je suis pas sûr.
C'est l'idée que du coup on n'aura plus de Français en France.
Ouais, voilà, et ça avait fait un gros tollé pendant la.
Alors, pardon, parce que c'est en fait, vous, auditeurs, auditrices, vous n'aurez pas plus de Français entre guillemets, selon c'est l'idée du grand remplacement où se fait envahir,
et qui a été employé par Éric Zemmour.
Et par plein d'autres, et notamment Adolf Hitler. Du coup, on va juste rappeler en fait que la France a toujours été un pays ou un royaume, ou donc a toujours été, je précise bien, où il y a des gens d'immigration, qu'on me trouve une personne de souche française, c'est-à-dire des Francs, il y en a plus, mais depuis très longtemps, puisque ça a toujours été un mélange. C'est comme ça que la France existe. Donc ça n'a pas de sens.
Mais après, c'est ce qui a été dit. Et ça a déclenché un gros tollé dans l'opposition et même dans son parti.
Mais en même temps, au final, du coup, ce qui a fonctionné, c'est qu'on en a parlé partout.
Et c'est, ça veut dire beaucoup de choses, notamment.
Oui, mais est-ce que finalement, elle n'a pas eu ce qu'elle voulait ? Dans le sens où on a beaucoup parlé de son meeting.
Exactement.
Alors, il y avait Marius avant.
Elle a prononcé une des phrases qui revient souvent dans les, par les polémistes ou par les personnes d'extrême droite en France. C'est l'idée du grand déclassement de la France.
Le grand déclassement, le grand remplacement.
Oui, la France est la 7e puissance mondiale. Jusqu'à quand et ça va bientôt se terminer si on ne fait rien. Et l'idée du grand remplacement, et c'est, ça fait partie des grandes théories de qui reviennent souvent dans l'idéologie d'extrême droite. Et je pense qu'elle essaie de viser un électorat d'extrême droite, celui de d'Éric Zemmour et de celui de Marine Le Pen.
Oui, et puis je pense que malgré tout, elle est également la cible pour une femme qui a dit il y a 5 ans que les femmes justement devaient rester dans la cuisine et faire le ménage. Quelle est la cible aussi de milieu journalistique national, le milieu journalistique national est composé de journalistes masculins beaucoup et de certains misogynes aussi. On l'a bien vu pour citer une candidate potentielle qui était d'un autre parti, c'était Ségolène Royal. Du coup, face à Nicolas Sarkozy, où elle n'avait pas le droit aux mêmes questions, c'était quand même extrêmement précis, et où aucune erreur ne lui était accordée. Mais vous êtes trop jeune pour avoir connu ça. On revit la même chose aussi. On sait bien que malheureusement, vu que je suis une femme, il y a aussi une forme de sexisme dans le traitement. Ilan.
Elle est à un bon mois de l'élection et
2 mois, 3 mois.
J'ai un doute. Enfin, on va dire un bon mois et demi, quoi.
Ouais.
Et donc,
on va couper la poire en deux.
C'est
entre
ça.
Un mois et 2 mois.
Et comme tu l'as dit, ils sont tous dans un mouchoir de poche, donc elle a intérêt à essayer de se démarquer maintenant. Donc, on peut le remarquer, t'as évoqué Marine Le Pen, t'as évoqué Éric Zemmour, on est plus sur un électorat de droite, voire d'extrême droite. Donc, elle a tout intérêt à tenter elle joue sa carte maintenant, elle en a parlé hier du grand remplacement. Est-ce que c'était une réelle idée qu'elle souhaitait proposer? Est-ce que c'était un coup, politique ou marqué, enfin pas marketing mais comme enfin communiqué, enfin de communication?
Il a bien marché,
c'est ça, et c'est qu'elle a vraiment besoin de reprendre ce pourcent qui lui manque pour essayer de passer au deuxième tour.
Mais on voit bien qu'il y a certains membres des Républicains qui sont partis et qui ont affirmé leur soutien à Emmanuel Macron, type Jean-Pierre Raffarin, qui avait déjà soutenu Emmanuel Macron en 2017. Romain.
Après, c'est vrai, je sais plus qui c'est qui avait dit ça, mais qu'elle était pas assez de droite. Dans ses détours. Je pense qu'elle a voulu se rattraper. Mais ça n'a pas marché.
Ok.
Non,
je réfléchissais.
De toute façon, c'est le discours de tous. Éric Zemmour a attaqué Marine Le Pen sur le fait qu'elle avait des idées plutôt centristes que d'extrême droite. Ils sont tous en train d'essayer de s'approprier l'électorat de droite et d'extrême droite, donc ça fait partie
du jeu.
Oui,
mais quand on regarde les sondages, on voit bien que c'est la droite qui arrive partout. Vous, comment vous vivez ça? Parce que vous n'allez pas pouvoir voter.
Si, moi la prochaine.
Si.
Là?
Moi j'y serai.
D'accord.
Prochaine.
Alors?
Oui.
Quoi? Ça ne fait pas réagir.
J'ai l'impression qu'il y a je pensais que ce serait plus modéré avec le temps, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de démarcations entre la droite et la gauche.
Avec le micro, Sacha.
La droite est de plus en plus extrême, mais je sais pas si on doit les prendre au sérieux ou pas, quoi. C'est des idées, je sais pas trop à quoi m'attendre, en fait. Ça a pas l'air très sérieux.
Ilan?
Je les trouve plus polémistes qu'avant, je voterai aux prochaines, mais je reste quand même quelqu'un d'assez jeune, et donc on n'a pas forcément connu, comment il s'appelle, le
Jean-Marie.
Père Jean-Marie Le Pen, mais qui était un peu dans le même principe de...
à
peine.
De cause toujours, enfin pas cause toujours sans tasse, mais...
Mais il n'était pas crédible.
C'est ça.
C'est avec l'arrivée de sa fille, à l'arrivée de Marine Le Pen, que vraiment le Front National est devenu crédible pour obtenir un poste de pouvoir.
Mais c'est que je pense que il y a des gens qui sont tellement désespérés sur les 5 dernières années, sur le quinquennat de Macron qui a été loin d'être le plus facile, je pense, pour lui. Il y a tellement une chose qui se sont passées, les gens sont tellement dans l'idée de changer. Et puis sur les dernières années, on peut voir que c'est souvent le yo-yo, ça bascule soit à droite, soit à gauche d'un quinquennat à l'autre.
Bah, en même temps, le quinquennat de François Hollande n'a pas été évident non plus avec les attentats.
C'est ça.
Chacun sa croix.
Ouais. Ouais, chacun sa croix.
C'est que ça bascule toujours d'un côté et de l'autre. Et aujourd'hui, les gens sont à la recherche de d'autres choses. Alors, est-ce que c'est ça, je laisse en juger les autres. Est-ce que c'est la bonne chose d'aller chercher un polémiste comme Éric Zemmour ou d'aller chercher autre chose, je ne sais pas.
Mais ce qui est embêtant, c'est que des petites phrases, mais quand est-ce qu'on parle du programme économique d'Éric Zemmour? Quand est-ce qu'on parle du programme social d'Éric Zemmour, à part changer les prénoms à des enfants? Enfin, voilà.
Quand est-ce qu'on parle de la santé?
Exactement.
Parce que c'est un peu l'actualité des deux dernières années.
Chez Éric Zemmour, on n'en parle pas de la santé, hein, ça,
non,
c'est sûr.
Ou de tout
un tas de choses qui peuvent montrer un minimum de crédibilité. Ouais. Tu vois, quand on parle de transport, de culture, de sport, des outre-mer, de l'espace, ça je sais pas si ça compte beaucoup, mais ça apporte une certaine crédibilité ou montrer qu'il connaît certaines choses.
Dernière sur ce sujet, Marius.
Moi, je trouve, mais c'est très personnel comme avis, qu'il puisse y avoir comme probabilité qu'on ait un président qui ait jamais été élu, qui soit juste passé sur CNews, qui d'ailleurs a tenu des propos haineux, hein, des propos misogynes, des propos antisémites, des choses qui devraient pas être tenues normalement.
Mais il a été condamné.
Il a été condamné je trouve que toutes ces raisons devraient le pousser à ne pas se présenter, parce que il a jamais été élu et c'est normal qu'il ait toujours pas reçu tous ces parrainage. Et je trouve ça étrange. Voilà.
Me fais pas tes yeux de coquère, Corentin. Mais après, vous allez pas avoir le temps de dire vos sujets. Alors, trois mots Romain, trois mots Corentin.
Il connaît Trump.
Vas-y.
Juste, il connaît Trump.
Ouais.
D'accord. Ça veut dire ce que ça veut dire.
Corentin.
Non, et puis après, juste. On
a dit trois mots Corentin. Non, mais vas-y, vite.
Non, mais dire qu'il est homophobe, islamophobe, tout ça, je pense que ça fonctionne pas avec des gens qui le sont eux-mêmes. Il faudrait plus l'attaquer plus frontalement que juste lui mettre des étiquettes.
Oui, voilà. Non, c'est clair, mais alors, en effet, son programme, on lui pose pas de questions. Et du coup, meeting raté, application ratée, ouais. Corentin. C'est dur pour trouver des transitions.
Parce que là, si la SNCF est souvent encore l'actualité pour ces épisodes de grève, ces divers incidents causant toutes sortes de perturbations ou encore ces nouvelles grilles tarifaires, aujourd'hui c'est pour des raisons moins habituelles qu'elle est sous le feu des critiques. En effet, depuis le 25 janvier dernier, la SNCF a lancé sa toute nouvelle application et site internet SNCF Connect, remplacement de plus d'une dizaine d'applications et sites comme Oui SNCF, l'assistant SNCF, Thalys, Lyria et tant d'autres sous la bannière. C'est la porte d'accès à toutes les mobilités. La volonté de la compagnie nationale était de créer une application unique capable de proposer toutes les mobilités possibles depuis la France, comprenant aussi bien les transports en commun, le vélo, la voiture, les trains, les cars ou même la marche à pied. L'objectif était même d'intégrer toutes les offres des réseaux de transports en commun, de la recherche d'horaires pour n'importe quelle ligne jusqu'à l'achat d'un abonnement depuis n'importe quelle ville. L'interface a également été entièrement refaite avec un thème bleu nuit et une simple barre de recherche en lieu et place du traditionnel formulaire. Le lancement s'est effectué en grande pompe dans la nuit du 24 au 25 janvier et la directrice de l'application Anne Pruvot vantait son application dans tous les médias quelques jours auparavant. Cependant, dès le premier jour, les critiques ont été très vives. De très nombreux utilisateurs ont déploré la charte graphique du site avec par exemple des dégradés de violet sur fond bleu. Non, des textes en dégradé de violet sur fond bleu. De plus, le thème sombre est inutile en milieu éclairé. Il peut présenter une gêne aux myopes et astigmates.
Je confirme.
Moi aussi. Et alors que ce même thème sombre était un des principaux arguments de cette refonte graphique, puisqu'il apporte, je cite, « plus de confort et plus de batterie ».
Mais les critiques... j'ai eu peur.
Oui, ils ont vraiment dit ça. Mais les critiques ne s'arrêtaient pas à la simple charte graphique. Un certain nombre d'utilisateurs se sont plaints de l'impossibilité de retrouver un trajet acheté sous l'enseigne application Oui SNCF. Ainsi, plusieurs centaines de clients de la SNCF ont perdu leur ticket, pourtant acheté en bonne et due forme auparavant, avant le 25 janvier. Et la seule réponse du service client de la SNCF est de racheter un nouveau billet.
Bah tiens.
Oui. Le remplacement du formulaire a également posé beaucoup de problèmes, mais il en pose toujours. Par exemple, si on rentre dans la barre de recherche de SNCF Connect Saint-Nazaire-Nantes, le premier résultat proposé est la rue de Saint-Nazaire à Saint-Herblain. Ensuite, si vous avez eu la chance de trouver un bon trajet, par exemple entre Nantes et Paris, les propositions d'itinéraire sont pour le moins étranges. Ainsi, SNCF...
Passer par Toulouse.
Non, pire. Ainsi, SNCF Connect dit que le trajet le plus rapide sera de prendre la voiture pour seulement une trentaine de minutes de trajet. Alors que les villes sont séparées de plus de 380 km. Et le trajet le moins cher, c'est évidemment la marche à pied. Il faudra moins d'une heure pour relier notre capitale régionale à la capitale française. Il y a encore d'autres fonctionnalités, pourtant très pratiques et disponibles sur SNCF, ont carrément disparu, comme la possibilité d'acheter un billet aller-retour, de faire plus de deux correspondances ou d'utiliser un bon d'achat. Donc, il y a eu clairement, et puis même pendant plusieurs jours, là, il n'y a eu aucune communication de SNCF sur ceci, sur là. Par exemple, on entendait énormément la directrice de l'application qui a complètement disparu après le 25 janvier. Et c'est le grand patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, qui lui minimise complètement les faits. Il dit que seulement que la très grande majorité des utilisateurs se plaisent dans l'application, mais que malgré tout, le nombre de gilets rouges donc, et de personnes dans les centres d'appel et sur les réseaux sociaux a été multiplié par 3 et que 300 développeurs sont mis sur les rangs pour apporter plus de 15 corrections par jour.
C'est énorme.
Oui, le ministre a aussi réagi, il demande à la SNCF d'agir au plus vite et pour certains, il y aurait un transfert de clients massif, notamment il y a l'appli, je crois, Trainline ou quelque chose comme ça, qui revendique plus d'un million de clients en plus, même si la SNCF dit qu'elle a eu le même nombre de clients. Même pour les transports en commun, c'est un peu un fiasco, parce que presque un mois après, seulement les billets, les abonnements ou les trajets pour Île-de-France Mobilité sont disponibles. Or, ils espéraient avoir des grands réseaux comme les TCL à Lyon, même la TAN à Nantes. Donc, il n'y a rien qui va.
C'est la Bérénice.
Bérézina.
Bézérina.
C'est la SNCF.
Ah, voilà. Tout est possible. Pourquoi avoir choisi ce sujet?
Parce que je prends le train au moins une fois par semaine et que je trouve que c'est juste le symptôme d'une entreprise où il n'y a plus rien qui va. Même le contexte, le contexte social, il est exécrable. Il y a encore des grèves ce week-end avec aucun TER, par exemple, en Nouvelle-Aquitaine. Très peu de TGV sur l'axe vers Bordeaux. Il y a aussi des risques. Il y a un projet de suppression complète des agents dans les gares dans certaines lignes de Transilien, notamment H et L, en Île-de-France. Et ça aussi, ça pose problème. Et même, par exemple, dire qu'il y a 3 fois plus de gilets rouges, 0 fois 3, ça reste toujours 0. À Nantes, il n'y a personne.
Gilets rouges ?
Quoi ?
T'entends quoi par gilet rouge?
Alors, le gilet rouge, c'est le surnom qu'ils donnent aux agents qui sont censés aider les personnes dans la gare.
Mais tout le monde le sait peut-être pas.
Oui, c'est vrai.
Ils sont censés.
Ça fait bizarre quand on entend ça.
Ils sont censés, parce qu'à Nantes, il suffit d'un retard. S'il y en a deux, il n'y a plus personne. Il y a personne.
Oui, ils ne peuvent pas renseigner tout le monde. Mais moi, ils sont censés. Non, ils renseignent. Moi, ils m'ont bien dépanné la dernière fois, tu vois.
Ouais.
Alors, je ne demandais rien.
Ça dépend des gens, après.
Ils m'ont vu errer avec toutes mes valises et ma fille.
Sur la classe.
Ouais, il y en a des gentils. Sacha.
Ça existe.
Je trouve que c'est pas assez. Les efforts, la SNCF, ils vont pas assez. Ils agissent pas assez en fait.
C'est-à-dire?
Déjà, c'est pas très intelligent ce qu'ils ont fait. Au pire, quand ils ont lancé leur application, ils auraient pu la tester.
Ils disent l'avoir testé avec une première version dite alpha cet été avec 4000 personnes et une autre bêta pendant l'automne avec je crois plus de 5000 personnes.
Marius.
C'est pas en ce moment que...
Par contre, vite.
Oui, la SNCF s'ouvre à la concurrence, que le réseau ferroviaire s'ouvre à la concurrence.
Il est ouvert depuis le 1er janvier 2020.
D'accord.
Romain.
Je commence à me demander si les 5000 personnes, c'est pas des employés de la SNCF.
Oui, c'est que des employés de la SNCF qui ont testé l'application. Non.
Bon, ça veut dire ce que ça veut dire aussi.
Ça, du moment qu'elle marche, là en l'occurrence.
Ah, ils vont pas dire qu'elle marche pas.
On risque de se renvoyer.
Nous, des fois, on teste des outils à escalado qui peuvent servir aux jeunes. Si ça marche pas, au contraire.
Oui, mais vous, en même temps, vous avez des raisons.
Ben non, mais la SNCF aussi, bien sûr.
Si vous, dites, si vous dites que ça marche pas, vous n'allez pas, vous allez pas vous faire virer.
Mais non, mais eux non plus.
En tout cas, c'est étonnant que pour eux ça marche et pas pour nous.
Non, mais je suis d'accord, mais peut-être que je sais pas.
Pourquoi avoir lancé alors que ça fonctionnait très bien, alors, même si...
Une mauvaise nouvelle ne venant jamais seule, Ilan, tu as une mauvaise nouvelle pour nous.
Et oui, en effet, je vais vous parler de l'arrêt de l'émission phare de France 3, l'arrêt de l'émission Plus belle la vie. Cette série mettait en scène le quotidien des habitants de Mistral, un quartier imaginaire de Marseille. Au fil des épisodes, on découvrait la vie personnelle des personnages, les intrigues policières dans lesquelles ils sont impliqués. La série s'appuyait fréquemment sur des faits de la vie quotidienne ou bien des phénomènes prenant de plus en plus d'ampleur. Ils ont pu notamment faire des épisodes sur le harcèlement, la drogue ou choses comme ça. Plus belle la vie, c'est aussi des polémiques comme le 25 février 2016 où nous pouvons voir dans l'épisode une scène de viol entre conjoints. Cette scène fera scandale car à la suite de cet épisode, le compte Twitter de Plus belle la vie a posté un sondage en demandant si le viol était justifié ou non. Nous pourrions aussi parler de l'épisode...
Oh, mais c'est horrible. Je suis désolée, mais...
Nous pourrions parler aussi de l'épisode du 3 mai 2014 où l'on voit une personne apprendre à une autre comment rouler des joints et cela est censé être
interdit
et puis
c'est de l'incitation.
C'est
de l'apologie.
Malgré tout cela, après...
Arrête, Barius.
Mais je... Quoi ?
Arrête, Sacha.
Mais c'est pas moi ?
Ouais.
Vas-y, mais c'est lui !
Bah, j'ai rien fait.
Mais si, t'as tellement mal, là.
Malgré tout cela, après 17 ans, 18 saisons et à peu près 4500 épisodes, Le Figaro, confirmé par la suite par 20 minutes, viennent d'annoncer que c'était la fin pour Plus belle la vie à cause d'audience en berne. Donc je souhaite vous poser la question, qu'en pensez-vous de la fin de cette série star de France 3 ?
Romain !
J'ai pas beaucoup vu la série, mais c'est vrai que de se dire qu'elle va s'arrêter, j'en ai souvent entendu parler.
Tu vas pleurer. Là.
J'ai vu. Je pleure déjà. Mais je pense qu'il y en a quand même qui étaient vachement attachés à cette série, surtout depuis 17 ans.
C'est ça, c'est qu'autour de cette table, je suis pas sûr que. Enfin,
c'est peut-être
pas ton âge, mais même moi, j'étais à peine né quand la série avait démarré. Donc,
Oui, c'était.
Ne regardez pas. Moi non plus, j'étais pas née.
Je sais pas si c'est de cette génération, mais je pense quand même qu'il y en a qui ont
le premier épisode a été diffusé le 30 août 2004.
Ouais. Il y en a qui ont été attachés à cette série pendant longtemps et je pense que pour ces gens-là, ça va être différent certainement.
Sacha.
Mais moi, j'ai jamais regardé du tout la série, mais j'en ai beaucoup entendu parler aussi. Mais après, moi, je trouve pas très ça logique, juste pour des mauvais commentaires ou des choses comme ça. Que ça s'arrête.
C'est juste une baisse d'audimat.
C'est ça, c'est qu'ils ont. Ils
faisaient plus d'audience.
Ils faisaient plus d'audience et l'arrivée de nouveaux feuilletons sur TF1.
Ça rapporte plus.
Enfin, c'est ça, l'arrivée de nouveaux feuilletons sur TF1 ou sur d'autres chaînes faisait que c'était plus intéressant de le produire.
Comment
Moi je dis tant mieux, je trouvais que c'était une série stupide. Non, et puis même, je trouvais qu'à vouloir trop faire réalité, c'était pas du tout crédible.
Marius.
Moi, je m'en beurre les aisselles avec du miel d'acacia parce que déjà, quand on tombait sur Plus belle la vie, on zappait directement, donc je m'en fiche.
Ilan, pourquoi as-tu choisi ce sujet ?
Ouais, je l'ai pris parce que un peu plus de légèreté aussi par rapport aux autres sujets qu'on a pu évoquer, et puis que ça me faisait rire de me dire que cette série avait mon âge et que c'était donc une page qui se tournait assez longue quand même.
T'as quelque chose à nous annoncer ?
Ah non, rien du tout.
D'accord. Romain.
C'est peut-être justement se poser la question si les mini-séries comme ça en Access Prime, est-ce que ça pourra, ça remplacer les jeux télévisés qu'il y avait avant. Il y a de plus en plus de mini-séries, mais est-ce que ça va vraiment durer comme ça éternellement ? Ou est-ce qu'il va encore falloir repenser à changer la façon de créer les programmes ?
Peut-être. Sacha, un autre programme de télé ?
Ah oui, la nouvelle saison de Koh-Lanta qui se nomme...
On reste dans la qualité.
Oui.
Vas-y. Mais oui.
Ok, la nouvelle saison de Koh-Lanta qui se nomme Le Totem Maudit sera diffusée dès le mardi 22 février 2022 à partir de 21h10 sur TF1. Donc qui est au départ donc depuis 19 saisons. C'était le créneau du vendredi et pourtant ils l'ont décalé au vendredi.
Mardi.
Ils l'ont décalé au mardi, pour la saison dernière et pour cette saison aussi.
Ça va bien le mardi.
Non, c'est honteux.
Bah non.
Pourquoi ?
De toute façon, moi, je regarde en
direct. Allez.
Moi, personnellement, je m'en fiche parce que je regarde en rediffusé.
Ah, c'est bien aussi.
Oui, mais je le regarde le samedi.
Bah oui, comme ça, tu choisis.
Voilà. Non, j'ai rien dit. Mais par contre, les règles vont être plus compliquées parce que dans la dernière saison, il y avait eu de la tricherie. De la tricherie.
C'est mal.
De la triche, quoi.
Ouais, de la triche. Donc, la 21e, c'est la 21e édition. Alors, pourquoi ça s'appelle le totem maudit?
Eh ben, parce que... pourquoi donc?
Car à chaque fois qu'une personne ou une équipe perd l'épreuve de confort, donc il ou il avec un S, ils ont perdu en fait. Enfin, ils ont le totem maudit.
Et en fait, d'accord, ça leur porte malheur.
Voilà.
Oh, mais c'est horrible. Non seulement ils perdent, mais en plus ils ont une malédiction.
Et c'est quoi le totem?
Et en fait, après, à l'épreuve d'immunité, ils ont une pénalité.
D'accord.
Voilà.
Pourquoi est-ce que tu as choisi cette actualité?
Mais j'ai pas terminé.
Ah, pardon.
Voilà. Et donc, Denis Brognard, il a hâte de présenter sa nouvelle édition. Voilà. Et les candidats de Skolanta. Alors, j'ai pas eu le temps de toutes les marquer.
Non, mais c'est pas grave. On ira voir pour avoir les prénoms.
Voilà. Ouais. Ou sinon, je peux les donner.
Non, ça va aller. Pourquoi est-ce que tu as choisi, du coup?
Parce que j'adore Skolanta. Avec ma famille, on l'a regardé tout le temps.
Parce que tu regardes en famille, peut-être?
Oui, ouais. Voilà. Et puis parce que c'est bien, on mange l'apéro en même temps. En fait, on mange pendant qu'il...
Non, mais c'est bien, c'est un moment familial.
Qui meurt de faim, en fait.
Oui, c'est vrai que par contre,
c'est... Ça, c'est drôle.
On les voit manger des insectes et nous, on mange des pizzas, c'est trop cool. Parce que quand ils ont gagné, ils ont des pizzas. Romain?
Il y a déjà une polémique.
Mais vite, Romain!
Oui, parce qu'il y a un candidat, ouais, je sais plus, il est pompier. Je crie si je veux, Adeline.
Il s'appelle Fuji, je crois.
Comment?
Non, parce qu'en fait, ils sont marqués là, mais je crois qu'il s'appelle Fuji.
Ah ouais, je sais plus. Enfin, ça doit être un pompier, un truc comme ça.
Voilà.
Et en gros, il est accusé d'homicide involontaire.
Hein? De quoi?
En fait, il était chargé de. Enfin, de la. Du bien. De la bonne
ambiance.
Non.
Je sais pas.
Enfin, de la réussite d'opération des pompiers. Donc lui, il était en haut de l'échelle et sur une des interventions de ses pompiers, un des pompiers est mort. Et donc il est aujourd'hui dans une affaire d'homicide involontaire, ou en tout cas d'avoir mal géré l'opération. Donc
mais c'est un des, j'ai pas compris, qui est accusé d'homicide?
Un des candidats.
Mais comment on peut confier ce rôle là à un candidat?
Mais parce qu'il vérifie pas quand tu t'inscris sur internet, et bah tu vérifies pas
mais si, non, mais on peut pas confier ça à un candidat, ça je comprends ça, pas.
Non, en fait son métier est pompier, enfin est pas pompier, mais il gère des missions.
D'accord.
Il fait une en haut de l'échelle, donc il a encore un casier judiciaire vide parce qu'il est en train d'être jugé.
Il est présumé innocent.
Il est présumé innocent encore, sauf que ça fait polémique parce que.
D'accord.
Il est accusé de ça.
Voilà. Ça commence très très bien.
Très bien. Ben on ira voir ça mardi puisque c'est mardi prochain.
C'est 22. Voilà.
Merci
21h10.
Merci Corentin. Merci Sacha. Merci Romain. Merci Ilan. Merci
normal.
Marius. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure. Non, même pas. Ni non. Même heure, ni même jour, mais la même fréquence. Ce sera samedi. Et oui, à 16h, Marius. Et on vous souhaite plein de bonnes choses dans la tribu.